Vous écoutez Serial Causeur.
On n'est qu'une bande de trolls, diaboliques, sans aucun respect ni aucune considération.
Bonjour et bienvenue, on vous l'a dit 100 fois ou presque, bonjour et bienvenue dans Serial Causeur, la 100e. Nous voici à un cap, un milestone comme disent les Américains. Certains podcasts atteignent les 100 émissions en 2 ans, d'autres jamais. Mais nous, à notre rythme, on a atteint ce palier en un peu plus de 5 ans, comme une bonne vieille série qui se respecte. Vous vous souvenez des séries? Ces trucs de 20 épisodes par saison? Vous vous souvenez des saisons? Ça allait de septembre à mai, mais tout ça c'était avant. C'était un autre temps et depuis on a vécu un âge d'or qui ne nous éblouit plus tant que ça. On s'ennuierait presque à regarder mécaniquement des épisodes, on binge, on faste, on saute, même des épisodes, pourquoi pas, on y arrive. On appellera ça le dropping ou le skipping, bref, on attendra un article de Libé ou des Échos là-dessus. Nous sommes en début de nouvelle année, on vous souhaite une très bonne année série à vous. Nous sommes en Ça je viens de le dire en plus. 2020 déjà. Pour vous situer, il y a 20 ans, Thomas était même pas encore né. C'est vrai ?
Ouais, bientôt.
Il y a 20 ans, quasi jour pour jour, Malcolm commençait sur Fox. Les glisseurs de Slider nous quittaient. Beverly Hills était dans sa dernière saison. Urgence, on était à son 123e épisode. Il lui en restait plus de 200 encore. Michael Pitt était dans Dawson. Buffy venait nous livrer un de ses meilleurs épisodes où le silence était de mise. Jason Baer exprimait enfin une émotion dans la saison 1 de Roswell. Et on achetait Série Mag. Et Dark Angel allait aussi débuter à l'automne et on allait découvrir Jessica Alba. Pour vous situer encore, nous fêterons bientôt les 10 ans de la fin de Lost, de celle de Heroes, de celle de Nip Tuck, de Scrubs, les débuts de Spartacus, de Parenthood ou de Pretty Little Liars. Que de grandes séries. En janvier 2010, on n'avait pas encore découvert Walking Dead. Michael Scott avait encore gâché un Noël chez Dunder Mifflin. Alicia Florrick débarquait dans la vie de Stéphane. Et nos amis du McLaren fêtaient leur 100e épisode. En citant tout ça, on a des souvenirs dans la tête qui durent. Mais en 2020, quelle série perdure encore pour de bonnes raisons? Combien étaient là il y a 5 ans à peine? Quels sont les souvenirs qui durent depuis plusieurs années? Est-ce que Game of Thrones a été définitivement retiré du Panthéon à cause d'une simple fin? Damon Lindelof est-il Dieu? Non. Est-ce que les séries sont encore des séries? Est-ce que Stéphane en regarde trop? Est-ce que quelqu'un regarde encore Supernatural?
Oui.
Une série devient événement. On critique les moments de série, les saisons de série et non plus l'épisode. La culture de l'épisode n'existe plus. On juge dans une globalité malsaine car on binge, on oublie les parties, on juge l'ensemble, on oublie le voyage et on juge la destination. De 2010 à 2020, a-t-on vécu la Peak TV comme il fallait? Qu'avons-nous appris, retenu, oublié? La définition même de série a évolué, la façon de les voir, de les écrire aussi, même de les critiquer. Alors à qui la faute? Ici, on aime bien revenir sur le passé, c'est un peu ce que Netflix ne fait pas. On parle beaucoup de ce qui va arriver, souvent de ce qu'on regarde le week-end de la sortie, et peu de ce qui reste vraiment. Ici, on aime parler de ce qu'on est, des spectateurs, des critiques, des fans. Ici, on aime causer série. Ce n'est pas un Happy Hour série, encore que, ce n'est pas une émission spéciale, encore que, c'est tout simplement la 100e ou le 100e Serial Causeur. À 100 épisodes, les séries osent, se résument, se célèbrent, on va faire tout ça. Un podcast à la radio, est-ce que c'est encore un podcast? Vous me direz, une série visible sur Netflix, est-elle encore une série télé? Twin Peaks, est-elle une série ou est-il un long film? Une mini-série, est-elle un long film ou une série de téléfilms? À l'occasion de cette émission exceptionnelle, casting exceptionnel, nous avons tenté de réunir le gratin. Mais comme moi, j'aime pas le gratin, je suis un peu mal à l'aise. Alors autour de moi, ce soir, des anciennes têtes, des vieilles têtes, des têtes vieilles, ou tout simplement des têtes. Alors dites-moi un chiffre entre 1 et 20. 12. C'est le nombre de fois qu'Elodie a regardé la fin de Lost pour la comprendre. Bonjour Elodie. Deux sur nos écrans. Un autre chiffre.
15.
15, c'est le nombre de séries que Stéphane a vues depuis 16 heures.
C'est même pas vrai.
Journaliste musical et pilier de Serial Causeur. Je vais dire gros pilier, mais non. Grand pilier. Un autre chiffre.
3.
3, c'est le nombre de fois que Marina a cité Nathan Fillion depuis vendredi soir.
Ouais, petite forme. Petite forme.
Marina de Critique Factory de Melty, j'ai tout bon?
Oui.
Un autre chiffre. 7, c'est le nombre de saisons que, de Walking Dead que Maxime devra rattraper.
Oh merde.
Désolé. Un autre chiffre?
8.
C'est le nombre de fois qu'Alexis devra dire c'est comme dans Grey's Anatomy ce soir.
C'est quand je regarde pas.
Qui est de la chaîne des accès, évidemment. 20, c'est le nombre de minutes que parlera Thomas ce soir.
J'essaierai de faire plus court.
Qui est donc président de Ryan Murphy Universe.
J'en suis fier.
Un autre chiffre? C'est le nombre de podcasts qu'Alan a foiré.
Bonsoir, et ce soir je ne serai pas d'accord avec Alan.
Qui est de putain geek.
Alan.
C'est ça.
Un autre chiffre, s'il vous plaît.
1.
Bah, c'est en minutes le temps nécessaire à Arnaud pour résumer Buffy.
Je t'en fais encore ce soir.
Un autre chiffre.
8.
8. Okay. C'est le nombre d'épisodes que regarde Aubery avant de dire c'est nul.
C'est pas faux.
Aubery de Pure Break.
Tout à fait.
Un autre chiffre.
19.
C'est le nombre de saisons réussies de Doctor Who pour Laetitia.
Et c'est tout à fait vrai.
Laetitia de LR Media. Un autre chiffre.
14.
C'est le nombre de blagues vaseuses que Romain fera ce soir.
Et je compte bien en faire bien plus que ça. Évidemment.
Ouais, petite forme sinon, 14.
Romain de Seriously. Enfin, dernier chiffre, tout le monde est passé à part Renaud. Un autre chiffre pour Renaud alors.
5.
7, c'est le nombre d'années que Renaud devra attendre avant de rencontrer enfin Zendaya. Ah,
c'est dommage. Mais c'est pas ce qu'elle perd.
Bon, voilà, tout ce beau long, merci d'être avec moi. Alors, choisis un beau gosse de série, on te donnera la date de ta mort. Ça va, le journalisme série chez Charles Lee, ça va?
Franchement, parfait.
C'est quoi ce quiz?
C'est un quiz qui fait plaisir à nos lecteurs, voilà. C'est...
Ouais, d'accord.
Mais on fait pas que ça sur Serious Lee, attention. Hein.
Ah bon, faites pire encore. Aubery, on pleure le départ de Justine Chambers ou pas?
Oui, on pleure. D'accord, très bien. Qui pleure ici, moi, Justine Chambers?
Non, pas du tout.
Mais si, on regarde, enfin, je regarde, mais bon, au bout d'un moment, on en a...
Mais on aura oublié l'année prochaine.
Bah, il est déjà parti.
Il vient de sortir une explication. Non, moi, ce que je veux, c'est les raisons du départ.
Oui, moi, je pense qu'il y a anguille sous roche.
Hélène Pompeo a dû lui pomper tout son salaire encore pour se faire une augmentation.
Un retour de Firefly, Marina?
Oui. Moi, je suis pour.
Avec qui?
Ah non, avec le cas. Alors, par contre, cast original, hein, obligé. Je supporterai pas que quelqu'un d'autre fasse Malcolm Reynolds.
D'accord. C'est qui Malcolm Reynolds? Personne connaît Malcolm.
Allez, dis le nom.
C'est Nathan / Dieu / maître de l'univers / Fillon.
On ira voir Derek au cinéma, Stéphane, avec Thierry Lhermitte.
Ben voilà, Thierry Lhermitte.
Oui, j'avais aussi un autre chose. C'était pour Maxime, toujours amoureux d'Arnold.
Toujours.
Tu peux nous expliquer qui est Arnold?
Arnold est le petit copain de Josh dans Please Like Me et oui.
Bon, on va commencer à la 100e.
Serial Causeur.
Et si on se fait détester, personne ne nous écoute de toute façon, donc c'est pas très grave.
La 100e.
C'était qui le...
Merci à qui?
Ça lance bien la 100e. T'as choisi ton bon slogan.
Merci à qui est en Antarctique à faire son faire comme dans un typico là. Alors, pour la 700e, on a décidé de faire un peu comme tout le monde, en retournant dans le temps, en faisant un bilan des années passées, mais on va s'arrêter à 2010, à peu près, donc les 10 ans. Depuis, plein de choses ont changé côté série, notre consommation, la production, la diffusion, la critique. Faisons donc un état des 10 choses qui ont marqué le monde sériel. J'ai envie de dire, les networks sont un peu finis depuis 2010. En 2010, on avait quand même How I Met, Lost, Prison Break, Supernatural, The Office, Desperate, House. Est-ce que les networks, c'est fini? Qui veut prendre la parole?
Vas-y, Stéphane. Je me suis tempéré pour te couper.
N'hésite pas à prendre le micro. Mais la prochaine, il n'est pas collé, tu peux. Pourquoi?
Ça va même revenir en force, les networks. Mais parce que...
Mais nettement.
Mais non, mais c'est le truc le plus créatif qui soit, quoi. Non,
n'hésitez pas à le couper. Hein.
Alors je le coupe. Créatif qui soit. Enfin, c'est parce que il y a.
Moi, c'est pas géré par des algorithmes.
Ouais, mais il y a le câble aussi. Il y a entre Netflix et Network, il y a le câble et les networks prennent exemple sur le câble et ils sentent qu'ils ont besoin d'être renouvelés et c'est pour ça que effectivement il y a une nouvelle donne qui est en train d'être mise en place. Mais non, les networks, enfin maintenant, ne serait-ce que les Golden Globe ou les Emmy, tu regardes, il y a très peu. Il y a très peu de.
On ne peut pas non plus limiter les séries aux séries qui sont nommées aux Golden Globe.
Oui, mais bon.
On n'est pas dans la merde, sinon.
Non, mais d'accord, mais enfin. Oui, mais si tu veux, je trouve que effectivement tout ce qui se fait de mieux, c'est pas forcément sur des. C'est pas
ce que j'ai dit. Hein, mais... Après,
bah, tu l'as mal dit, peut-être.
Il y a quand même des séries de network qui changent changent les choses, qui font du renouvellement, comme par exemple Evil qui a été lancé récemment sur CBS. Il y a évidemment, comme sur tous les, comme sur Netflix, comme sur toutes les plateformes, il y a des choses à acheter sur les networks et il y a des choses à garder. Je pense que c'est le cas sur tout en fait, sur les networks, comme sur Netflix, comme sur Disney+, quand on y aura accès. Je pense que c'est en
Alors que tout le monde a vu Mandalorian, c'est bizarre.
Non. Dire que c'est la mort du network, je suis pas sûre. Par contre, effectivement, il y a des choses bonnes et il y a des choses mauvaises, mais ça a toujours été le cas de toute manière.
Bah, est-ce qu'on est très très loin des grandes heures de, des networks. On est très très loin des Lost.
Bah, toutes les séries que j'ai citées maintenant.
Anatomy, aujourd'hui, il n'y a pas une seule série qui leur arrive à la cheville.
Je suis pas sûr qu'on reviendra.
Cette, les séries qui prennent des risques maintenant sont ailleurs, elles sont plus sur les networks. Mais ça reste, il reste plein de séries.
Alors justement, est-ce que Evil prend des risques?
Non mais...
Maxime, vas-y.
Non mais justement, là où je suis d'accord
bien
avec
dans
Marina,
le micro, Maxime.
Là où je suis d'accord avec Marina, c'est que les années 2010 ont été les années du câble, mais maintenant ça revient sur les networks où on a un Evil qui revient en force, qui réinvente un peu le genre de l'horreur. Et ça, il y a vraiment un vivier de nouvelles séries qui reviennent et on va plus vers les networks. On se détourne de Netflix.
Ils vont être obligés de se renouveler. Ils vont être obligés de se renouveler énormément et de prendre des risques pour pouvoir concurrencer le câble.
Eh ben, c'est ce que je disais, tu vois. C'est ça, c'est que c'est parce qu'ils prennent exemple sur le câble.
Non.
Donc, les plus créatifs qui soient, peut-être tu t'es emballé.
Mais le câble a pris exemple sur les networks.
Eh oui.
Comment?
Bah, non.
Quand le câble, il a explosé avec The Wire, Six Feet Under,
Soprano.
Mais avant, on avait quand même un vivier de séries. C'était celle-ci que tout le monde regardait pour s'inspirer. Quand on a un Ally McBeal, un Urgence, enfin, c'est vraiment celle-ci qu'on définit le genre de la comédie judiciaire.
Mais alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas le câble à côté qu'on a parlé de ces séries-là, ou est-ce que c'est parce que c'est moins bien maintenant et mieux ailleurs?
Les audiences d'Urgence parlent d'elles-mêmes, je pense.
Mais Urgence, du coup, a commencé bien avant. Là, je pense qu'effectivement, comme dit Tom, c'est tout simplement qu'il y a plus de concurrence. Maintenant, on regarde aussi d'autres trucs, ça les oblige du coup à se renouveler. Il y a des séries qui ont un sens, effectivement, je suis d'accord avec Tom, qu'à mon avis, on en parlerait beaucoup moins maintenant.
Bon, quelle est la solution pour sauver les networks? C'est arrivé à 13 épisodes, plus de budget,
plus d'idées,
plus d'originalité. Bon, c'est
ça.
Ah bah les reboots.
Ouais, mais le câble, c'est des longs films. Hein, j'ose. C'est un long film, c'est une idée.
20 saisons.
Watchmen, c'est une idée. Watchmen, c'est une idée qui est racontée.
Oui,
les networks, c'est souvent des formulas show. On va revenir aux formulas show, mais c'est souvent plusieurs. On décline un concept, alors que dans le câble, c'est rarement une déclinaison de concept. C'est plutôt une longue histoire. Donc, t'accroches ou t'accroches pas.
Mais je pense que justement, l'idée, ce serait que, pas qu'ils se concurrent, autant pas qu'ils se concurrencent, mais qu'ils ciblent des publics différents. C'est voilà, ils se complètent. Le formula show, on ne le trouvera pas sur Netflix. Bah, en fait, c'est en fonction de ce qu'on cherche, on ira là où on veut trouver. C'est ça qui est bien, mais quand on a du choix, en fait, au final, il suffit juste de choisir.
C'est la fin de cette émission.
Il a trop bien conclu, quoi. Il a plus envie de rien dire derrière.
Allez, c'est bon, on a complété cette sentier.
Alors,
c'est bon.
À part Evil, quelle série Networks elle mérite d'être vue, là?
The Good Place.
Mais c'est terminé, alors on n'en parle plus.
This
Is Us.
New Amsterdam.
Ok.
Et Miami Taxi.
Donc bah, parlons du câble, donc justement, parce qu'on ne vend plus du programme d'accompagnement, mais vraiment de l'histoire. Donc il y a eu la période Sex and the City, Six Feet Under, Soprano. Puis à partir vraiment de la fin des années 2000, il y a eu Breaking Bad, Dexter, Mad Men. Là, on parlait vraiment de l'âge d'or. Est-ce que le câble a changé depuis? Ou est-ce que ça ronronne? Ou est-ce que c'est toujours aussi créatif? Est-ce que maintenant, on fait plus des longs films?
On n'a plus vraiment d'anti-héros maintenant, parce qu'on a eu toute une période, bah, comme tu dis, avec Mad Men, Breaking Bad ou quoi. Là, je trouve que ça se diversifie beaucoup, ça se féminise beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'héroïnes qu'il n'y avait pas avant, avec des séries de très très bonne qualité, voire autant que les séries citées. Ils se diversifient parce que voilà, il y a moins de mêmes histoires qui se racontent, même si elles étaient vraiment excellentes. C'est une nouvelle période du câble. On a pu avoir peur pour HBO après Game of Thrones par exemple, mais au final ils se renouvellent complètement depuis la fin, même depuis quelques années, et ils offrent des séries qui marquent vraiment aujourd'hui, quoi.
Et donc il n'y a pas vraiment de tendance en ce moment sur le câble?
pense qu'en fait, c'est...
Tu penses beaucoup ce soir, Alan, fais gaffe. Hein.
Et encore, je peux dire du coup beaucoup. Non, mais c'est par rapport à l'évolution de la société. Je pense que comme là, du coup, la société en ce moment évolue, les sujets des séries évoluent aussi, et en ce moment, on est dans une période où ça se cherche un petit peu, et c'est en train de se métamorphoser. Donc là, on est dans une phase de transition. Je pense que d'ici un an ou deux, il y aura peut-être de nouvelles tendances qui vont se développer.
Quelle série du câble, là, en ce moment, est à voir et qui fédère, on en reparlera un peu, mais depuis la fin de Game of Thrones, qu'est-ce qui... Voilà.
Succession.
Bah, Succession, oui, qu'à... Stéphane n'est pas d'accord. Mais... Oui, mais il y a eu un buzz quand même un petit peu depuis la saison 2, et il y en a beaucoup qu'on redécouvre.
Disons que j'ai pas vraiment lu d'avis négatif sur la série. Enfin, tous ceux qui ont regardé ou quoi, on parle de façon hyper...
Mais c'est mérité ou pas, là ?
Oui.
Mais quand on parle du câble aussi, en fait, au final, toutes les séries qu'on cite, on parle que de HBO, parce que AMC, ils sont plus là. FX, ils sont là, mais c'est que des séries, des vieilles séries. Et Showtime, ils arrivent pas à terminer leur série. Donc au final...
Sci-Fi avec The Magicians, par exemple, qu'il faut regarder.
Allez,
et dont
bon.
La saison 5
Allez,
vient de débuter.
Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Qui c'est qui avait mis
18 minutes, c'est bravo.
18 minutes, qui c'est qui avait mis 18 minutes sur Magicians?
revenons au Formula Show. Pourquoi ça attire plus? Et pourquoi ça attirait avant? Je regarde Stéphane, je sais pas pourquoi, mais...
Parce qu'il est juste en face de toi.
Oui, c'est peut-être ça.
Et que pourquoi tes yeux sont attirés par son regard de braise.
Est-ce que c'est parce que y a une facilité à avoir accès aux séries comme avec Netflix ou ce genre de trucs qui sérialisaient justement les séries et les gens se sont peut-être, ou la nouvelle génération s'est peut-être habituée plus à ce genre de type de narration plutôt que les séries qui répètent la même chose épisode après épisode.
Mais alors c'est quoi, qu'est-ce qui a évolué? Est-ce que c'est à cause de Netflix? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'écriture? Ou est-ce que c'est tout en même temps?
C'est un petit peu tout en même temps. Ce serait un peu ambitieux de dire qu'il n'y a qu'un seul facteur qui fait évoluer toute une façon de consommer les séries.
Et tout le monde n'aurait pas ses lettres s'il n'y avait qu'un seul facteur.
J'admire le petit silence qu'il y a eu
et l'explication de la blague.
T'as mis un petit temps. Il te reste 13 blagues vaseuses.
J'ai pas
eu
un truc pour
ça. Ah non, mais moi, c'est typiquement le genre de blague. Alors que je veux pas rire à la base, tu vois. À l'intérieur de moi-même, il y a quelque chose.
Justement, est-ce que les séries qui marchent dans les networks, enfin, dont on parle, ne sont plus des formules à chaud parce qu'elles se rapprochent de l'esprit câble ou pas? Genre This Is Us, par exemple. C'est un feuilleton, quoi. C'est. Je sais pas, par exemple, prenons 7 à la maison. Ouais. C'était plutôt un formula show, genre c'était une histoire par épisode. Là, This Is Us, c'est quand même plus inscrit dans. C'est peut-être un mauvais exemple, This Is Us.
Oui,
Million Little Things.
Il y a 911 ou les trucs comme ça, ou c'est des. Ou c'est...
Allô? Alors, qui regarde 911?
Personne, mais.
Mais si, mais ça c'est vrai. C'est vraiment le prototype du Formula Show, mais ça marche
bien.
Donc comme quoi il y a toujours les gens.
Grey's Anatomy, au final, il y a toujours un peu.
C'est toujours ce qui se vend le plus à l'étranger de toute façon. Donc,
c'est
ça qui les fait maintenir en vie.
C'est vrai que quand tu regardes ce qu'il y a, par exemple, dans la télé française, c'est direct. Du Valley PDF, du Avec Pagou, même le Good Doctor, Amsterdam, Grey's Anatomy, au final. C'est quand même, on peut pas dire que c'est une série, des séries qui durent, enfin, c'est-à-dire sur la durée, je veux dire, c'est des histoires qui vont...
Ouais, il n'y a pas des fils rouges.
Mais
ou
c'est le même type de série, par contre, celle que tu as citée. C'est toutes des séries médicales, c'est ça le
non,
truc.
Non, je dis avec les autres, les ou ce genre de série. Oui, sinon, oui, des séries médicales, mais au final, c'est ce qui est... Quand on regarde les audiences, c'est surtout sur TF1, c'est ce qui marche le mieux, au final.
Mais même aux États-Unis aussi, quand on voit que NC...
Alors là, on t'entendra pas du tout, Thomas.
Un peu comme, désolé, hein, je m'incruste.
Ce qu'on nous dit, il faut bien parler dans le micro, donc.
Ok. Encore là comme ça?
Ouais. Faut le manger.
Quand on voit encore qu'aux États-Unis, l'une des séries qui marche le mieux, c'est NCIS, donc on voit bien que le Formula.
De moins en moins.
Elle était
sous les 10 millions là.
Ouais, enfin quand même, pas beaucoup de séries font encore un tel score. Hein, et quand on voit 911 aussi, ça reste l'une des séries qui marche le mieux. On voit bien que le public américain est encore très attaché à ce format-là.
Mais il y a une ancienne génération qui est encore là, qui consomme toujours les séries de la même façon. quand on voit les programmes TF1, par exemple, tout ce qui est mystère de l'amour, les feux de l'amour, etc., nos parents, nos grands-parents regardent toujours. Ils sont encore là, ils regardent.
Hein, donc, la télévision française, enfin, en France, c'est les vieux qui regardent la télévision, donc je pense qu'ils sont toujours.
Non, mais. Même la moyenne.
Ça, les boomers maintenant. Hein.
La moyenne d'âge des networks, c'est aussi vieux aussi. Hein.
Ils aiment leur. En gros, ils aiment bien ne pas avoir à suivre, donc ils peuvent prendre leur épisode comme ça.
Parlons justement de l'écriture. Est-ce que l'écriture a changé depuis 10 ans ? Pensez que justement c'est plus des longs films, je reviens toujours à ça, c'est
non,
chiant.
C'est mais... Pas forcément dans le terme de long film, mais bien sûr qu'il y a des choses dans l'écriture qui ont changé en 10 ans, ne serait-ce qu'avec tout ce qui s'est passé dans l'actualité. Je sais pas si c'est forcément ça que tu avais en tête, mais moi quand tu me parles de ce qui a pu changer dans l'écriture, la première chose qui me vient en tête c'est le mouvement MeToo, qui a forcément eu un impact dans quasiment toutes les séries.
Après, il y a souvent eu, enfin, la société a souvent eu un impact dans les séries, même pas cette année, enfin, pas forcément maintenant. Ça a été le cas il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, le 11 septembre, avec The West Wing, par exemple, qui a fait qui a réalisé et écrit un épisode sur le tas, comme ça, après les attentats, et qui l'ont diffusé.
Il y a aussi une culture des séries par rapport à tout ce qui était publicité sur les networks, c'est-à-dire qu'il fallait toujours une sorte de petit clip avant la pub et tout, et maintenant il y a plus de séries aussi sur les plateformes, sur le câble, c'est une autre manière aussi je pense pour les showrunners d'écrire.
Est-ce que l'écriture Netflix, enfin, est-ce qu'il y a une écriture Netflix?
Oui.
Il y a des petits clins d'œil qui se font à leur propre série dans chaque épisode.
Ouais, constamment.
Ouais, c'est les tableaux Excel où ils cochent des cases.
Désolé, je m'en pose.
Faut faire ça dans chaque série.
Mais est-ce que certaines, par exemple, je prends les grandes séries les longues séries comme Supernatural, Walking Dead, Grey's Anatomy, est-ce que leur écriture a changé depuis? Est-ce que Supernatural est toujours pareil? Est-ce que Grey's Anatomy est toujours pareil?
C'est toujours pareil, oui, mais...
aussi nul?
Non. Le truc avec Supernatural, c'est qu'à la base, ça a été écrit pour 5 saisons, et la suite peu été improvisée saison après saison, mais les personnages restent les mêmes au final. Il n'y a pas vraiment un gros changement d'écriture dans la série.
Grey's Anatomy aussi, je la trouve plus ancrée dans la société maintenant, alors que je trouvais qu'elle était plus, légère et décalée il y a quelques années. Je trouve que depuis 3-4 ans,
depuis Chris Tavernin, depuis, ça dépend aussi des showrunners de ce que
c'est l'application d'Hélène Tambréau, je trouve.
Oui, c'est ça que je pensais aussi.
Parce que.
Elle est beaucoup plus actuelle et beaucoup plus politique.
C'est ça. Alors qu'avant, je la trouvais vraiment complètement désolidarisée de ce qui se passait.
Au moment où il y a eu la bascule Shonda Rhimes qui est partie faire autre chose et Hélène Tambréau a pris un peu le dessus en termes de production, ça se voit.
Hein, ouais. Alors moi, je suis pas fan d'Hélène Pompeo, donc je préfère ne pas voir qu'elle a une influence sur.
Une influence positive, donc.
Voilà. Mais du coup, je préfère. Du coup, c'est nul, Grey's Anatomy. Regardez pas. Non. Mais je trouve qu'effectivement, elle est plus politisée maintenant. Elle n'est pas forcément mieux dans le sens où faut qu'elle arrive. Non, mais il faut qu'elle arrive à la fin parce que là, clairement, elle est au bout du bout. Mais je trouve qu'effectivement.
Qui ça, Hélène Pompeo ou la série?
Mais les deux.
Les deux.
Elle en a marre.
Pompeo et Grey's Anatomy.
Ouais, là, maintenant, faut arrêter. Ouais.
Je pense qu'elle-même elle a conscience qu'elle aura jamais autant de succès ailleurs que dans Grey's Anatomy.
Elle le dit
elle-même d'ailleurs.
Ah bah clair. Elle a eu la chance de sa vie, hein, parce qu'elle aurait jamais. parce que je trouve qu'elle joue très mal.
On a des nouvelles de ceux qui ont quitté Grey's Anatomy ou
pas?
Ouais. Comment s'appelait
Patrick Dempsey, ouais, il a joué.
Il y a deux ans, on n'aurait pas dit Patrick Dempsey.
Et il a joué dans Bridget Jones aussi.
Oui.
Ouais, mais ouais. Voilà. Non mais un petit Hard Night
s'en sentira mieux, c'est à voir.
Justin Chambers, il ne fera plus rien.
Ah bah Justin Chambers, oui, mais en même temps avec les.
Pour reparler de Justin Chambers, quand il dit dans son communiqué. Je quitte Grey's Anatomy pour des nouveaux rôles, mais c'était pas là, c'était il y a 10 ans qu'il fallait.
Comme tous les autres. Non mais là, 50 ans.
Ouais, d'ailleurs, parlons-en de ce fait-là, il a 50 ans, mais c'est un délire quand j'ai appris ça. J'ai fait quoi
Que fait la génétique? Il s'est focalisé sur une seule personne.
Alors parlons maintenant des.
Attends, juste pour dire qu'Catherine Hegel, elle a tenté plein de trucs, elle a jamais rien.
Ouais, bah, il faut qu'elle ait droit avoir du talent.
Ils sont pas plus arionnés.
Elle est sûrement barista dans un Starbucks.
Elle joue pas dans le sous. là récemment.
Si. Si.
Ouais, ben la série a d'ailleurs été annulée.
Elle est arrivée, donc là, c'est la dernière saison. Là, ça
non, mais Catherine Hegel, c'est mathématique. Vraiment, tu prends une série qui est au firmament. Tu mets Catherine Hegel, elle se termine.
Elle faisait plein de films quand elle était dans Grey's Anatomy.
Mmh, c'est vrai. Parlons de la série événement, le fameux Event Series. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est encore des séries? Est-ce que c'est pas plutôt des mini-séries déguisées? Et puis on essaye de... Ça concerne aussi les revivals qu'on essaie de faire petits finalement qui durent, comme X-Files par exemple. Ou... Est-ce que Will and Grace c'était X-Files?
X quoi?
Ça a jamais été considéré comme une série.
Non, c'était pas une série.
Will and Grace c'était pas...
Non, c'est un vrai revival.
Et par exemple Tchernobyl et choses comme ça, est-ce que...
Ah. Des mini-séries.
Ouais, des mini-séries.
Moi je sais pas la différence entre...
Parce que genre,
il y avait un nouveau terme marketing peut-être.
Oui, c'est ça. Il n'y avait pas Big Little Lies ou.
On mettrait une deuxième saison.
Oui, c'est ça. Les Event Series, des fois, t'as des suites.
Big Little Lies ou je sais pas quoi, c'était pas un Event Series.
C'était une mini-série et au final, elle s'est tapée une saison 2.
Là, t'as Watchmen aussi.
Non, ça a été annulé.
Laissez-le terminer.
Bah, c'est bon, j'ai terminé ma phrase.
Laissez-le. Écoutez-le.
Après, pour les mini-séries, je sais que cette année, j'ai l'impression qu'on a eu beaucoup, en tout cas en 2019, on a eu beaucoup qui ont beaucoup émergé. Par exemple, il y a One Day Save Us, Years and Years et Tchernobyl. Et honnêtement, c'était trois séries qui, pour moi, ont marqué 2019.
Watchmen.
Ouais, Watchmen. Mais bon, ça, on n'était pas encore sûr, tu vois. Mais par exemple, je pense à Years and Years, qui est dingue. Et je pense qu'à mon avis, c'est un nouveau format qui va de plus en plus venir dans le monde des séries, parce qu'on voit que ça cartonne nous.
Et moi, je trouve que c'est pas si mal aussi de dire, voilà, cette série, elle dure 6 épisodes, 7 épisodes, et puis après, c'est fini. Et même si ça cartonne, on fera pas de suite. Et au final, en tant que téléspectateur, t'as quand même... tu regardes, et puis c'est fini, mais t'as apprécié, et tu dis que ton expérience va pas être potentiellement gâchée par une suite qui n'est pas nécessaire, comme peut-être par exemple Big Little.
Complètement.
Ça n'a pas été gâché, hein, personnellement.
Non, ça peut être.
J'ai beaucoup aimé, elle était moins bien sûr, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Non,
par exemple, si on dit vas-y, on va faire une saison 2 de Years and Years.
Est-ce
que t'as envie de regarder une saison
2
de
Years
and
Years?
Non.
Et c'est une bonne...
Oui, mais les...
C'est une bonne phase,
c'est une bonne phase. Ou alors une anthologie.
Oui, c'est ça, l'anthologie, ça peut permettre.
Mais j'ai pas envie de regarder une Years and Years saison 2 avec les mêmes personnages, tu vois.
De toute façon, une Years and Years sans Russell Tovey, ça n'a aucun intérêt. Non, mais c'est intéressant de voir qu'il y a aussi de plus en plus de producteurs et de showrunners qui refusent de faire durer leur série. Je pense par exemple à Phoebe Waller-Bridge qui a refusé de faire une saison 3 de Fleabag alors que Amazon insiste énormément.
Elle va arriver quand même la saison 3.
Ça a été pareil pour Good Omens, c'est pareil pour Watchmen. De voir que les gens réclament des suites, les networks, les plateformes, le câble réclament des suites, mais les showrunners, les créateurs refusent parce qu'ils estiment que leur vision est arrivée à son terme.
Alors, mais Good Omens, c'est pas seulement parce que ça a pas marché?
Good Omens, ça a bien marché. Ça a eu un très bon accueil sur les réseaux sociaux et il y a eu un communiqué d'Amazon qui disait qu'il voulait faire une suite, mais que
même
Fleabag.
Les showrunners, ils voulaient une saison 3 de The OA.
Je vais faire mon cynique, mais je pense que ça nous dépendra toujours de la taille du chèque. Hein.
Non, je pense pas. Tu vois, genre une troisième saison de Fleabag, je pense pas que ça dépend. Je pense que vraiment
la taille du chèque, elle était là.
Je pense que Phoebe Waller-Bridge, elle est pour le coup.
Elle a ce qu'il faut à côté. À l'usure, ils peuvent réavoir la marque, quitte à ce que ce soit pas là elle.
Ouais, mais
on a
Fleabag,
vraiment envie de regarder Fleabag.
C'est ça.
Waller-Bridge.
Ça, tu le sauras quand t'auras la saison 3.
Non, mais même à l'époque de Lost, Lindelof.
Ah, le point Lost.
Allez, hop, c'est fait. Non, mais Lindelof.
Dans le micro, Tom.
Lindelof.
Si tu parles de Lost.
Bah, alors. Lindelof, lui. Oui, en bien. Lindelof voulait suivre son plan, donc de faire 6 saisons, mais le network voulait, lui, potentiellement aller encore plus loin. Et c'est eux qui ont dit, nous, on menace de quitter la série si jamais on n'arrive pas à faire notre plan de 6 saisons. La chaîne a fini par accepter de les laisser faire ce qu'ils avaient envie.
La chaîne aussi voulait, fin.
Oui, ils ont renouvelé d'un coup les 3 saisons.
Oui, mais c'est que la série se serait peut-être cassée la gueule si Lindelof aurait parti.
Lindelof, est-ce qu'il a eu raison de dire Watchmen, c'est bon?
Oui.
Si sa vision, on respecte.
Oui, la saison 1, ça arrive à son terme, l'histoire, on n'a pas forcément besoin de suite.
Il nous le dit clairement, quoi. Il sait pas quoi raconter pour une saison 2, donc c'est très bien, quoi.
Oui, enfin, il a quand même précisé que la plupart des développements du personnage d'Angela, c'était pas lui, c'était ses scénaristes à lui. Donc, il aurait pu laisser la place à quelqu'un de son équipe de scénaristes pour prendre devenir showrunner et puis continuer ainsi. Et lui, il aurait pu n'avoir fait que la première saison sans aucun problème, quoi.
Alors, on nous dit que pour Good Omens, c'est un des auteurs ne veut pas en faire une saison 2 parce que le deuxième auteur est décédé.
Ah, oui, c'est vrai, ça jette un froid. Là.
Oh là là, les gens qui ont une morale.
Sorti une raison.
Oui, bah ça, il y a plein de contre-exemples. Oui,
hein.
Big Little Lies.
Bah ça, ça a daté un bouquin et puis il n'y a pas de suite.
Oui, c'est ouais, mais t'as plein de séries qui ont fait ça.
Oui, c'est pour ça.
L'auteur ne veut pas continuer la suite, sachant que son acolyte, il est décédé. C'est plus pour principe que, en fait, 13 Reasons Why, l'auteur est toujours vivant. Big Little Lies, il me semble qu'elle doit être toujours vivant.
Oui, oui,
oui. C'est peut-être pas la même chose.
Mais c'est un peu le problème de Netflix, je pense, aussi, qui sait pas quand arrêter ses séries au bon moment, bah, ou les arrête trop tôt.
C'est donc, justement, point numéro 6, Netflix, bravo, tu gagnes une blague vaseuse.
Oh non!
Je peux en refaire une en plus.
Oh mais non!
Alors Netflix, est-ce que c'est le bien ou le mal?
Au début, c'était bien, mais là, ça tend à être sur le mal, quoi. Enfin,
oui, c'est
non,
les deux.
C'est
attendez, qui veut avoir la parole? Je te la donne pas. Alan.
Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste la concurrence, c'est comme les networks, c'est comme le câble, c'est juste du choix en plus. Voilà, il y a du bon, il y a du mauvais. Et voilà.
Je ne suis pas d'accord, Laetitia.
Non, mais Netflix, c'est un outil. Il faut arrêter de considérer une plateforme ou un outil comme bien ou mal. C'est comme quand les gens ils disent un couteau, ça peut aussi bien servir à couper une pomme qu'à tuer quelqu'un. C'est pas pour autant qu'un couteau est bien ou mal.
Ça peut couper une pomme.
On a tellement. On a... C'est vrai.
C'est ça. Hein, c'est un nouveau mode de consommation. Comme avant, on regardait la télévision, on était sur notre canapé, je sais pas, à 20h50 pour regarder le film qui commençait à l'heure.
À 20h50.
Oui,
c'était avant Cyril Hanouna.
On adorait attendre une semaine pour voir la suite de notre épisode.
Oui, mais après, il y a un problème aussi entre l'image qu'ils se donnent et qu'ils veulent se donner, leur communication, et ce qu'ils sont réellement, au final, un diffuseur comme un autre.
Oui, mis à part son CM de Netflix. Est-ce que c'est pas aussi ceux qui regardent Netflix qui donnent cette réputation-là aussi? Genre, voilà, ils regardent cette série-là parce que c'est sur Netflix. Par exemple, You, personne n'en parlait avant, c'est arrivé sur Netflix.
Elle était
sur Lifetime. C'est vraiment sur Netflix. Hein.
Non, c'est arrivé après, une fois la saison terminée.
Oui, mais c'est la même année, quoi.
En fait, je trouve qu'il y a un problème, c'est que maintenant, on ne parle que des séries Netflix. Par exemple, quand on parle de séries, les gens vont dire mon top 10 des séries Netflix. Ils oublient en fait qu'il y a d'autres chaînes, qu'il y a d'autres plateformes, et maintenant, c'est que Netflix. Généralement, quand tu parles de série avec quelqu'un, ils m'ont dit « Est-ce que c'est sur Netflix ?» C'est la première fois.
Oui, c'est ça.
Facilité.
Et puis du coup, les gens, ils regardent.
Enfin, oui, ils vont pas regarder.
Pareil, on regarde tous pareil. Ils vont pas aller voir ailleurs parce que c'est Netflix.
Quoi. Oui, bien sûr.
Tu parles de facilité, moi, je parle d'accessibilité. C'est-à-dire que, à part celles qui sont rachetées par les chaînes françaises, voilà, en théorie, on n'est pas censé y avoir accès.
Après, il y a pas
de
séries sur Canal, sur
OCS, sur Amazon aussi. Ah, qui est là.
Et il y a beaucoup de choix sur ces chaînes.
Il y a Disney qui va arriver. Maintenant, il y a de plus en plus de choix. Mais c'est vrai que Netflix, ça a été la première plateforme à être arrivée. Donc, c'est aussi, entre guillemets, normal que ce soit la plus connue et la plus populaire.
Et il y a aussi beaucoup de choix sur Netflix. Il y a un catalogue qui fait que si tu en choisis une parce que ça coûte cher d'avoir aussi.
Ouais, c'est sûr.
Mais le problème de Netflix, c'est le catalogue, c'est que c'est pas des anciennes séries. Et c'est là où je trouve qu'Amazon Prime s'en sort le mieux, c'est qu'il propose des vieilleries.
Arabesque, hein, par exemple, qui vient d'arriver, hein. C'est dingue. Hein.
Non, mais c'est vrai. Je suis
déçu. Sur Arabesque, calme-toi, parce que. Attends. Excuse-moi, je crois que c'était un podcast familial. Excusez-moi. Allez, une blague vaseuse.
Allez, hop.
Ah, pas la commande.
Par exemple, Netflix, elle est aussi, bien plus ergonomique qu'Amazon.
Carrément.
L'utilisation
Elle est utile.
Après, c'est la règle du
jeu.
Le seul problème de Netflix, c'est qu'ils ont des sous-titres qui sont complètement merdiques.
Oh là, ça me fait. Ah, mais moi, ça me fait rire. Faudrait faire un bêtisier making-of, je sais pas quoi de.
Là, tu dis, mais oh là là.
Ah non,
c'est même pas
la traduction.
Ouais, les mauvaises traductions ou les trucs trop littéraux. Enfin, vraiment.
Ah non, mais t'es en mode.
Dans les DVD aussi. Dans les Newport Beach en ce moment que je me refais, c'est dur.
Mais bon, c'est la règle du jeu, quoi.
Justement, parlons du binge-watching. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal?
Non, c'est pas bien.
Est-ce que c'est... On s'en fout.
Est-ce
qu'il y a des séries qui méritent mieux le binge?
Je pense qu'il y a des séries qui méritent qu'on les regarde et qu'on s'y attarde, qu'on prenne son temps. Après, je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Par exemple, moi, personnellement, je ne suis pas fan de binge-watching et je ne vais pas me faire une saison en une journée. Après, c'est parce que c'est mes préférences aussi. Yep. Je pense que... Et au contraire, il y a des séries qui méritent, pour moi, de prendre son temps, mais il y a des séries aussi, en vrai, qui ne méritent pas. Enfin, Elite, par exemple, je ne vais pas apprécier de regarder Elite sur 3 semaines. Je veux dire, si je regarde en une journée... Bon, c'est pas très très grave.
Pourquoi tu regardes?
On ne fait pas de king shaming de séries.
Non, c'est vrai.
Mais c'est vrai qu'il y a des séries qui sont très bien regardées au format binge-watching. Je pense par exemple à la dernière saison de Grace and Frankie. Je me la suis faite en une après-midi. Voilà, ça s'est fait très bien comme ça. D'autres séries, typiquement Years and Years, c'est des séries qui sont tellement intenses.
Tu regardes une balle,
tu as envie de mourir à la fin.
Sûr. Mais du coup, vous citez.
Mais tu sais que j'ai enchaîné Tchernobyl, Years and Years, à la fin, j'étais à bon.
Mais est-ce qu'il y a des.
La Casa de Papel.
Vite élite.
Est-ce qu'il y a des raisons à binger? Est-ce que c'est parce que c'est justement, on n'a pas sa dose, donc on continue parce que c'est mal écrit et que. Un épisode nous convient pas, ou alors justement parce que c'est génial et qu'on veut toujours continuer.
Génial, c'est peut-être exagéré, mais ça peut être fun, et puis il y a des trucs qui s'enchaînent suffisamment bien.
En fait, il y a pas vraiment de règles.
Moi, la saison 2 d'IOE, vraiment, je l'ai bouffé, mais vraiment, parce que c'était, déjà, j'étais hyper contente qu'elle revienne, parce qu'on a attendu, je sais pas combien de temps. On a attendu presque 2 ans. Et après, j'étais hyper contente, mais c'était l'excitation de retrouver les personnages. Ouais, donc, on est content d'enchaîner. Après, moi, je suis aussi de l'ancienne école où on devait attendre une semaine entre les épisodes. Honnêtement, je trouve que c'était un plaisir. Moi, je me rappelle des Friends quand il y avait des cliffhangers en mai qu'il fallait attendre jusqu'en septembre. On était comme des dingues, et il n'y avait pas internet, tout ça. Nous, on avait à peine la télé en noir et blanc, hein, tu vois, et l'électricité, fallait pédaler. Mais ça, je trouve que ça manque un petit peu, l'immédiateté d'avoir tout. Voilà, c'est un peu dommage parce qu'effectivement, moi, ZOE, voilà, après 2 ans, alors tu rougnes parce qu'il faut attendre 2 ans.
Tu rougnes.
Donne-nous une définition de rougner.
Excusez-moi, c'est dans le sud, on dit on rougne. Donc, on râle parce qu'effectivement, il faut attendre 2 ans. Mais quand on les retrouve, on est hyper content. Donc, j'imagine qu'effectivement, ce format d'attendre une semaine ou 2 semaines, je pense que ça rajoute un peu à l'expérience aussi, que peut-être sûr. Netflix, du coup, dans l'immédiateté du truc.
L'outil Netflix. C'est un outil fait pour le
binge watching.
Bien sûr.
Maintenant, en plus, maintenant, ça a réduit. Maintenant, ils ont réduit. Maintenant, c'est 6 secondes.
Amazon, c'est 5.
Un peu triché pour leurs audiences et tout. Regardez, il y a 8 millions qui ont regardé. Il faudrait 10 minutes du tout.
Oui,
voilà,
totalement.
Pas tous en même temps.
C'est ça aussi, je pense, qui favorise le binge watching parce que, presque. T'as pas le temps de choper ta télécommande
Tu
dis, oh bah.
Bon bah, okay. Go quoi.
Ouais. Après, moi je pense que c'est surtout une question de temps de binger aussi, parce qu'il faut avoir le temps quand même de se taper une saison de 6, 8, 10, voire plus d'épisodes.
Du temps, et puis du fait d'avoir rien d'autre à faire aussi. Moi je sais que je binge quand je m'ennuie.
Ouais, voilà. C'est ça.
Mais c'est-à-dire que moi ce qui me dérange avec Netflix qui sort toute une saison d'un coup, c'est que tu dis, d'un coup t'as 10 épisodes
totalement.
À regarder au lieu d'en avoir un par semaine. Parce que t'as ça plus tout.
Ouais. Et si tu les regardes pas rapidement, tu te fais spoiler.
C'est ce que j'allais dire après. T'as ce truc là, avec les réseaux sociaux, c'est que tu peux facilement te faire spoiler. Et du coup, vu que les gens regardent très vite, au bout d'une journée, tu peux déjà te faire spoiler la nouvelle saison.
Alors, je sais pas comment vous faites pour faire spoiler, mais une fois j'ai vu.
Sur Twitter, Tom.
Mais arrêtez, mais vous suivez les mauvaises personnes,
c'est vrai.
Tout.
Hein.
Mais non, bah. Non,
faites du tri, comme dans les séries.
Bah, ta gueule, maintenant, franchement, là, j'en ai vrai pote. Si tu me spoiles, je te dégage.
Les personnes toxiques, vous les dégagez, voilà, sur Twitter aussi. Moi, j'arrive pas, mais. À un moment, c'était la fin de Game of Thrones, tout le monde dit « Oui, je me suis fait spoiler sur Twitter, j'ai essayé de me faire spoiler, j'ai pas réussi. »
Même sans se faire spoiler vraiment
comment on fait
ce qui se passe dans l'épisode, tu peux savoir qu'il se passe déjà un truc de fou dans l'épisode. Rien que ça te gâche une
partie. Ouais, parce que tu vas attendre un truc, et puis généralement, en plus, t'es déçu parce que t'attends quelque chose, quoi.
Après, je suis désolé, je suis redondant sur l'idée, mais en fait, tout simplement, c'est du choix. C'est-à-dire que là, vous avez toute une saison, mais oui, vous avez toute une saison entière. Libre à vous de la regarder en un samedi après-midi.
C'est pour dire de la merde, Lan.
Non, mais
tu vas dire ça à chaque question, c'est du choix. Bah évidemment, mais le débat, c'est ça. C'est sinon,
Le seul truc, effectivement, c'est le fait que pour moi, Netflix, le problème qu'ils ont avec le Big Watching, c'est qu'ils sortent toute une saison. C'est qu'ils sont obligés d'en sortir beaucoup de séries parce qu'en fait, au bout d'une semaine, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Là où des séries qui durent sur l'année, effectivement, ça dure. On peut en parler toute l'année. Mais c'est le seul problème que je vois. Le reste, faites ce que vous voulez en fait.
Justement, parlons de la fin des séries fédératrices. Qu'est-ce qui reste encore maintenant comme série qui attire tout le monde? À part Doctor Who, et encore Doctor Who, je trouve que c'est un peu de niche quand même. On en parle beaucoup, mais c'est...
Les séries n'ont jamais attiré tout le monde.
Quand je dis tout le monde, c'est grand public, c'est voilà Game of Thrones, tout le monde en parle.
Game of Thrones, oui, quand même. Enfin, moi, je trouve
Walking Dead à la grande époque, mais maintenant, oui, voilà, qu'est-ce qui reste?
C'est la grosse dernière, quoi.
Qu'est-ce qui reste?
The Walking Dead, mais encore.
Ah non.
Ouais.
Non.
Il reste Grey's Anatomy.
Non.
Non.
Regardez dans le monde entier.
Mais t'es dans le monde entier, Stéphane.
Mais oui.
Ouais, après c'est vrai, elle est nouvelle encore, elle est relativement
ouais,
encore ça dépend encore des sorties Netflix, parce qu'évidemment on parle plus des séries Netflix. Voilà. Les sorties de You, les sorties de Sortie Reason Why, de Stranger Things.
C'est hyper fédérateur.
J'ai même pas vu une minute de cette série.
Stranger Things.
T'as pas vu une minute de la série, c'est une des séries les plus attendues.
Stranger Things, c'est peut-être l'exemple,
le dernier,
le gros exemple.
Mais c'est pas ce que tu regardes pas que les gens regardent pas.
Justement, fin des séries fédératrices, est-ce que les séries cultes disparaissent aussi?
Non.
Qu'est-ce qu'on a en séries cultes?
The Magicians. Ça disparaît jamais.
The Magicians, oui. À part The Magicians.
À part de voir comment le marathon Buffy a été accueilli il y a quelques
Ouais, mais ça, évidemment, là, c'est acté. Buffy, série culte, mais maintenant. Là, je parle
les séries maintenant qui vont devenir cultes.
Depuis 2010,
on ne sait pas. On ne sait pas.
Les séries sorties depuis 2010, il est beaucoup trop tôt pour savoir si elles vont être cultes ou pas. On le saura dans 10 ou 15 ans. Comme, lesquels?
Stranger Things.
Game of Thrones.
Stranger Things.
Même, il y a un changement du terme culte maintenant avec les réseaux sociaux.
Il y a plein de définitions.
Chacun a son culte et buzz, tu vas dire buzz. Cette série est nulle. C'est vraiment cool. Enfin, t'as des fans, t'as le fandom qui a changé avant Internet et aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc le culte, peut-être ça a maintenant une définition différente qu'avant.
Parce qu'on oublie quand même vachement les séries maintenant de plus en plus.
Non!
Parce qu'on n'a pas tous la même définition du culte.
Mais il y a plein de définitions du mot culte.
Et puis t'inquiète pas, si ça devient oublié, ils vont faire un remake, un rewatch.
Non, mais Buffy. De toute façon, faut faire un choix.
Non, mais Buffy, effectivement, à l'époque, c'est parce que c'était énorme qu'une héroïne, vois, soit badass comme ça. Maintenant, c'est hyper commun, mais à l'époque, c'était beaucoup moins. Donc, ces séries sont devenues cultes parce que aussi, elles étaient à l'avant-garde de plein de choses. Maintenant, c'est difficile d'être à l'avant-garde parce qu'il y a tellement de choses qui ont déjà été faites que c'est compliqué.
Culte selon qui aussi, c'est ça?
Oui, voilà.
Alors, culte selon la presse, culte selon les critiques, culte selon les fans, culte selon c'est ça le truc.
Voilà,
est-ce que par exemple Game of Thrones c'est culte?
Culte,
oui, c'est complètement.
Oh, mais dans 10-15 ans,
phénomène,
évidemment.
C'est un phénomène de société, de pop culture.
C'est souvent lié.
Ça a marqué son temps d'une façon ou d'autre. On l'aime ou on n'aime pas. Il y a des séries pour moi qui sont cultes que j'ai détestées. Hein, mais
puis c'est culte maintenant, c'est culte de niche en fait.
Qu'est-ce qui est culte?
Non. Mais
que le
fandom
connaît cette série.
Laquelle? J'ai pas
entendu
le nom.
Lodge 49.
Non, mais il
peut y avoir.
Voilà.
Non. Je suis pas sur Twitter, c'est même sur
Twitter
maintenant.
Le fandom connaît de Lodge.
Oui, il y a des fandoms, oui. Bah c'est comme
mais il y a un grand fandom mais non.
Comme la série Wayona Earp aussi.
Quoi?
Oui,
les fans de cette série.
Même ne serait-ce que moi, une série que je considère comme culte, Happy Endings, je sais que tout le monde ne le partage pas.
Et Undoubtable aussi.
Oui.
Mais est-ce que c'est parce qu'il y a trop de séries qu'il y a moins de séries cultes? Est-ce que chacun, finalement, fait son culte?
Bah oui, chacun a ses propres séries cultes aussi en fonction de ses expériences.
Pour certaines, The Vampire Diaries, c'est culte, par exemple. Tu vois, bon, voilà.
C'est qui ces gens? On peut avoir les noms? On peut avoir les noms? Qui sont ces gens?
C'est pour dire que
qu'on les retrouve. Non, parce qu'on est plein là, hein, on peut les retrouver.
Parce que Lodge 49, pour moi, c'est pas culte. Il y a peut-être une très grosse communauté, mais comme il y a une grosse communauté.
Il y
a
Stéphane.
C'est ça. Il y a des séries qui.
Il a maigri, Stéphane.
Quand tu parles de X-Files, de Lost ou de Buffy, même si tu n'as jamais regardé aussi. Tu vas regarder, tu sais que c'est culte, tu connais.
Là, si tu parles d'élite, tous ceux qu'on Netflix connaissent.
Ouais, oui, c'est pas culte pourtant. Pour moi, c'est pas culte. Je demande à mes parents.
Ah,
oui. Voilà. Ce genre de série, c'est trop tôt pour être culte. Elle va marquer l'histoire des séries.
Mais une fois qu'elle sera culte.
Non,
mais
oui. J'arrête les séries, quoi.
Le monde des séries va mal.
Je change de métier, quoi.
Non, mais c'est vrai.
Marina, tu parles trop fort, t'es dans le rouge, là.
Donc... Ouais, c'est vrai. Alors, c'est le micro.
Pardon.
Ah, mais je
baisse.
Mais moi, vous mettez des micros à chaque fois. Vous savez, j'ai pas besoin de micro. Aussi, c'est votre faute, la technique.
Et enfin, bon, on en a parlé un peu, le spoiler. Est-ce qu'il y a des règles au spoiler?
Alors, moi, j'ai...
On a une commande. Dès que l'épisode est diffusé, on peut spoiler.
Mais non, pas du tout. Par exemple, par exemple.
Non,
par exemple. Par exemple. le caméo de Crisis on Infinite Earth.
Tu ne me l'as pas spoilé, je me suis fait spoiler deux jours après, et en fait, je suis dégoûté David de le savoir.
C'est-à-dire même là, bon, évidemment, la chaîne qui diffuse a mis tout de suite, en a parlé tout de suite. Il y en a qui retweet.
Les médias américains, enfin.
Mais c'est normal.
Alors ça, c'est normal.
Non, mais bien sûr. Ouais. Mais je veux dire, tu peux pas y échapper.
Ça sert à rien de suivre ces comptes-là, évidemment, mais.
Bah putain,
ouais. Je sais pas comment j'ai réussi à faire parce que c'était quand même assez énorme, mais c'est dingue de se faire. Voler une partie du plaisir sur un truc aussi énorme.
Alors moi, j'ai pas la même notion du spoiler. Enfin, moi, le spoiler, ça m'a jamais dérangé, quoi. Enfin, dans le sens où je me rappelle, genre Dexter, la mort de Rita, je me la suis auto-spoilée.
Merci. Allez.
Je suis allée sur IMDb.
Un point pour l'équipe.
Je suis allée sur IMDb et tu vois, il y avait plein d'articles sur Julie Benz qui disait la mort de Rita et c'était, il me restait deux épisodes.
C'est une série que je me suis pas fait spoiler. J'étais très contente d'être sur le cul et de pas.
C'est 7 à la maison.
Oui, mais ça m'a pas enlevé du plaisir.
Non, mais les articles de...
Ça dépend comment tu vis ton spoiler. Est-ce que tu cherches le spoiler? Parce que moi, je sais que des fois, sur certaines séries, je le cherche. Et
totalement.
Je sais qu'il est là et je vais cliquer parce que c'est une bofette.
Mais il y a aussi les titres des...
Tu es
en retrait. Moi, il y a une série où je veux pas savoir ce qui se passe. Et du coup, quand je vois qu'il y a un truc... Bon, forcément, déjà, c'est une partie spoilée parce que j'avais déjà vu qu'il y avait quelque chose, mais bon, du coup, je vais pas aller plus loin à chercher à savoir. Mais moi, je sais que je suis des fois à l'aide du fait que je vais aller. Oh, bah, je me suis spoilée, mais je me suis spoilée moi-même. Donc,
Moi, ça me. C'est pas quelque chose qui me.
Par raison, ouais, comme disait Romain sur les sites de presse américains ou sur Twitter, tu peux regarder des trucs et là, tu fais.
Même en France, hein, par exemple, les titres genre « La mère de » entre crochet et spoiler est-elle morte ?» Alors que tu sais très bien qu'il y a peut-être un seul personnage qui est une mère dans la série.
Oui, c'est ça.
Mais oui. Avec la photo en plus du personnage, au bout d'un moment. Ça...
Ah ouais, alors les titres mystère avec la photo qui donne la réponse, j'ai jamais compris ce délire.
Alors d'ailleurs...
Alors, chez nous, on ne le fait pas parce qu'on ne met pas la photo du personnage.
Oui, ça n'a aucun
sens. Mais sur les sites américains, ça, par contre...
Ouais. Alors, au niveau, justement, du spoiler, le dernier spoiler qui avait agité un peu la toile, c'est sur Scam, avec l'article de Binge, c'est ça, Combini ? Est-ce que c'était vraiment un spoiler ?
En fait, c'est pas... On en a discuté hier soir, c'est juste que, les fans de Scam ne voulaient pas savoir, je pense, de quoi allait parler la saison. C'est...
Mais ils l'ont...
Tu parles de Crisis on Infinite Earths où c'était sorti la veille. Là, il n'y a rien qui était sorti. La saison n'était pas du tout sortie.
Mais de toute façon, deux jours après, il y a eu une bande-annonce, des choses comme ça, non ?
Voilà, dans la bande-annonce, tu comprends. Mais je pense que justement, en fait, le média avait un embargo.
Ouais, après chacun a sa sensibilité par rapport au spoiler aussi. Quand on a fait l'article sur Justin Chambers, son départ, dans les commentaires, il y avait certaines personnes qui disent merci du spoiler. Mais en fait, c'est une information, c'est pas un spoiler. Et surtout qu'il ne revient pas, donc dans tous les cas.
Qu'est-ce qui est spoiler ?
Parce que certaines personnes, oui, mais c'est pas comme si.
Le départ de. Voilà.
Ouais.
Il n'avait été mentionné nulle part jusqu'à ce que moment l'épisode soit diffusé.
Oui, voilà, parce que ça fait partie de la narration aussi, mais là le départ de Justice Chambers, ils auraient pu le faire avant.
Calmez-vous, Madame Le Pen, s'il vous plaît. qu'est-ce qui est spoiler ? Est-ce qu'une annonce casting c'est spoiler ?
Est-ce que
par exemple le départ d'un acteur c'est spoiler un petit peu ?
Ça dépend de son départ parce que je crois que cet acteur-là son départ il est un peu prouvé quoi.
Il n'a pas d'épisode d'adieu.
Ils ont annoncé que sur le chemin du retour, c'est croisé.
Oui, mais ça a été annoncé après.
Son dernier épisode, c'était en novembre.
Ouais, c'est ça.
Les gens se seraient dit est-ce qu'il va revenir ou pas, vu son départ. Donc là, au moins, ils ont été prévenus que non, il n'y aura pas.
Mais c'est encore plus dégueulasse.
On t'entendra pas.
Il n'est même pas parti, en fait.
C'est très, très bizarre la communication de ce départ-là. C'est assez étrange, quand même.
Moi, je pense qu'il y a un truc derrière, genre, ou un conflit.
Ah, bah ça, c'est sûr.
Exactement. Non, mais ça m'a fait penser à ça. C'est pour ça, je pense qu'il a dû se prendre la tête.
Alors les fins de série, est-ce qu'il y a un temps de
non
un temps pour les fins de série?
Non.
Est-ce qu'on peut raconter la fin de Lost ou
après,
c'est bien parce que pour Lost la plupart n'ont pas compris, donc c'est bien.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Tu pourras toujours la raconter, ils vont toujours.
Genre Six Feet Under, la fin de Six Feet ou
mais pour moi...
Breaking Bad et Sopranos, vu que ça a été discuté.
Par exemple, si tu parles avec quelqu'un et que la personne te dit, me dis pas, je vais pas être spoilé. Tu vas pas te dire. Est-ce que moi, personnellement, j'irais discuter de la fin en détail d'une série sur les réseaux, par exemple, en disant, ah bah voilà, il s'est passé ça. Non. Un ressenti sur ce qui s'est passé, oui. Mais pas un truc pour dire à la fin de Game of Thrones, bidule, bidule, bidule. Non, et, enfin, moi, je trouve pas ça intéressant. Je pense que c'est pas...
Un spoiler comme une fin, si ça te gâche l'épisode, c'est que l'épisode est pas bon en soi. Enfin, pour moi.
C'est ça. Mais par contre, parfois, on peut spoiler quelqu'un sans faire exprès en racontant l'histoire de la série. Par exemple, si vous devez pitcher This Is Us à quelqu'un, est-ce que vous spoilez le twist
c'est
de
c'est
la
problème, voilà, c'est pilote ça.
Moi, je le spoilerai pas, mais après.
Je l'avance toujours comme étant ces quatre personnes qui fêtent leur 36e anniversaire.
Mais totalement.
En même temps.
Mais oui. J'en dis.
Après, si t'accroches
comme ça,
si t'accroches au la révélation, ouais. Oui, là, c'est
la série, elle est vendue comme ça aussi.
Elle est vendue comme ça de base.
Mais sauf que, et j'ai... Vois le jeu, enfin, l'adaptation, là, merde,
je te promets.
Où il te raconte le cinéma.
Ah, oui, mais oui.
En fait, il te spoil pas, mais il te spoil en même temps. Donc,
mais
ça,
bien
ça,
sûr.
Ça n'a aucun sens, donc ça ne peut pas la regarder.
Et surtout, ça donne toute la magie. Enfin, je sais que quand j'ai eu le premier épisode de This Is Us, à la fin, j'étais sur le cul, j'étais à, ah ouais,
ouais.
Okay, cette
ah
série.
Ouais, bah ouais.
Mais oui, bien sûr.
Et du coup, c'est vrai que tu m'as raconté la série, du coup, au final, quand tu la racontes, les gens sont. Mais ça a l'air nul, mais non.
Je te jure. Après, on va pas se mentir, moi, ça m'est déjà arrivé en discutant d'un truc, d'une série. J'ai lâché un spoiler, puis là, j'ai quelqu'un en face qui m'a regardé et fait. Mais. Je savais pas que t'en étais pas là.
Ça arrive souvent. Moi, en parlant de Buffy, la mort d'un des personnages.
On spoil rien.
Non, je dis rien. Mais genre, Buffy, ça fait. C'est terminé depuis. Fatalité, la personne ne l'avait pas vu. Elle me dit, ouais, tu m'as spoilé. Ouais, mais je pense qu'il y a prescription depuis 15 ans. Enfin, tu vois, au bout d'un moment. Donc, effectivement, la notion de spoiler.
Il n'y a pas de date limite pour moi.
Mais maintenant, même les gens.
À partir du moment où l'épisode a été diffusé, voilà.
Mais il y en a
qui
n'étaient pas nés.
Non, mais c'est à toi de t'informer, quoi.
On veut regarder la série, en regardant la série.
Ouais, mais bon, à ce moment-là, tu ne parles pas de série avec personne, tu vois.
Ça va, on vous dérange pas là-bas.
Si, là, dans les années 50.
Qui a été intéressé par This Is Us après ce spoiler? Tout le monde a regardé par rapport au pitch.
Ouais. Par rapport à la bande annonce.
Ah oui, oui.
On
n'était
pas le public.
Oui.
Oui. Oui, nous on est là. On est là, oui, évidemment.
Mais moi ça m'intéressait vraiment juste cette ligne là, juste quatre personnes qui fêtent leur anniversaire.
Bah, Claire nous demande quel spoiler pour This Is Us.
Pardon?
On va pas te dire, Claire.
Bah, le fait qu'à la fin de l'épisode.
Il y a Superman qui arrive.
Et prépare tes citrons.
C'est une série de super-héros, en fait.
C'est une série de super-héros, mais c'est une famille.
Voilà. Bon, voilà, c'était la fin de ce débat. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Bon, si vous voulez rester, vous pouvez rester.
Serial Causeur. Nobody asked for your help. C'est la centième.